Média. Média.
Podcast.
Média. Podcast.
Ravi de vous retrouver sur Média pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique.
Média, Amna, l'Afrique en culture.
Et dans quelques instants, nous aurons l'immense plaisir de recevoir Boubacar Boris Diop, l'écrivain francophone et wolophone, et je le rappelle, une des plus grandes figures littéraires africaines. Et il revient donc avec un nouveau roman dont on parlera plus en détail. En effet, l'auteur de Mourambi, le livre des ossements, revient avec Un tombeau pour Kiné Gadjo, grand roman donc du naufrage de Djoula en 2002 et qui avait fait, je le rappelle, près de 2000 victimes. Sinon, nous aurons l'immense plaisir de recevoir la comédienne Lilia Nader. C'est la fille de la regrettée Dalila Nader, réalisatrice, donc scénariste également, productrice, qui a à son actif 7 films documentaires et qui sont à l'honneur au sein de l'Institut français du Maroc, une rétrospective donc consacrée à la défunte Dalila et Nader. Et pour nous en parler, qui de mieux que sa propre fille, qui partagera avec nous ses réflexions, son vécu, ses souvenirs du cinéma de sa maman. Sinon, nous parlerons également cinéma avec Hélène de Souleymane Cissé, un des classiques du cinéma africain. Il faut dire que les premiers films de Cissé ont toujours exploité les difficultés du Mali à devenir moderne, devenant rapidement un des classiques du cinéma africain. Hélène est le film phare de Souleymane Cissé avec lequel il assoit sa légitimité en tant que pionnier sur notre continent. Et comme promis tout à l'heure, nous avons l'immense plaisir et l'honneur de recevoir ce porte-parole de la littérature sur notre continent, Boubacar Boris Diop, auteur de Mourambi, le livre de Des ossements. L'écrivain sénégalais raconte le génocide du Rwanda, écrire par devoir de mémoire. Je rappelle qu'il a été lauréat du Neustadt International Prix for Literature. Il vient d'ailleurs de publier Un tombeau pour Kiné Gadjo en version française, après l'avoir publié en wolof. On l'écoute.
Quand on commence à écrire, on ne se dit pas « Oh, je vais essayer de résoudre les problèmes de ma société et, ou encore moins ceux de l'humanité ». Je pense qu'on est d'abord influencé par ce qu'on a lu. J'ai beaucoup lu quand j'étais jeune, Victor Hugo par exemple, Les Misérables. Et donc, on voit la capacité de la littérature à se placer du côté des pauvres, du côté des opprimés. Et puis, on a un parcours. Voilà, moi j'ai eu un parcours politique. Je dirais d'ailleurs plutôt un parcours militant, intéressé par les questions qui interpelle le continent. Ma génération, nous étions tous plus ou moins marxistes. La philosophie marxiste a eu un impact très fort sur nous. Et voilà, et quand on écrit des romans, de façon très spontanée, on prend le parti de ceux qui sont opprimés, le parti des faibles. On a tendance, ça peut être une grave erreur d'ailleurs, on a tendance à prendre sa plume pour une épée et à se battre pour aider la veuve et l'orphelin.
Oui, je voudrais également savoir, puisque voilà, vous parlez de votre génération qui a été primordiale dans l'essor de la littérature africaine à travers le monde, et on voit aujourd'hui toutes ces nouvelles plumes qui émergent de notre continent, notamment à l'étranger. Quel regard vous portez, vous, sur ces nouveaux écrivains? Qu'est-ce qui vous touche et quelle est la différence peut-être entre votre génération et cette nouvelle?
La différence, par exemple, je vais remonter plus haut que ma génération. Si vous prenez le premier roman jamais écrit en langue française par un Sénégalais, par quelqu'un d'Afrique subsaharienne, Force Bonté, vous le comparez au tout dernier roman publié par la nouvelle génération, mais vous vous rendez compte que vraiment, ces genres de textes sont à des années-lumière. Je pense que même en qualité, hein, c'est des textes beaucoup plus forts. Voilà. Cela dit, les auteurs de ma génération et ceux et les nouvelles plumes dont vous parlez, il y a de grandes différences, mais nous restons dans le même univers d'écriture. Il est vrai que la plupart de ces auteurs sont installés à l'étranger, en particulier d'ailleurs en France. Hein. Les différences ne sont pas si importantes que cela. Bon, moi, je suis au Sénégal, hein, mais en général, les auteurs dont on parle le plus se trouvent hors du continent. C'est la même chose pour le football. Hein, voilà, c'est une tendance de notre époque. Je crois que c'est très important. L'Afrique est le seul continent où les auteurs créent leur roman, leur pièce de théâtre dans des langues, l'anglais, le portugais, le français, que le compatriote ne peut pas comprendre. Alors, pour qui écrivent-ils vraiment? Et nous pensons, en tant que d'ailleurs disciples de Cheikh Anta Diop, nous pensons bon, qu'il est temps que la littérature dans les langues africaines soit prise au sérieux, soit encouragée. Ngugi, il écrit en Kikuyu, il est du Kenya. C'est l'un des auteurs contemporains les plus connus de Ngugi Wa Thiong'o. Moi-même, je suis sénégalais, j'écris en Wolof. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la littérature dans les langues du Sénégal, il s'agisse du Sérère, du Poular, du Wolof, est tout aussi importante que la littérature en langue française. Le deuxième roman que j'ai écrit en Wolof, je l'ai traduit en français chez mon éditeur habituel, Philippe Ray, à Paris, et c'est intitulé « Otomo pour Kidegagu ». D'ailleurs, il est très revisité par la critique, on en parle énormément.
Et on sera au rendez-vous, bien sûr, à l'heure de la publication et dès qu'on pourra, bien sûr, le découvrir. Merci en tout cas, Monsieur Diop, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir que de vous avoir.
Je vous en prie.
Merci, voilà, beaucoup. Merci. Et après avoir parlé littérature avec Boubacar Boris Diop, tout de suite nous parlons cinéma et place à Yélène de Souleymane Cissé. Il faut dire que les premiers films de Souleymane Cissé exploitent notamment les difficultés du Mali à devenir moderne. D'ailleurs, son premier moyen métrage, 5 jours d'une vie, prend pour thème les mésaventures d'un jeune paysan en butte aux lois de la ville. Puis viendra Den Mousseau ou encore Bara, le travail, sorti en 78, qui aborde le monde du travail de l'industrie sous l'angle du conflit et de l'opposition sociale entre ouvriers et patrons. Puis arrive l'année 87, l'année bénie pour Souleymane Cissé avec Yélène, ce splendide conte épique et poétique. Souleymane Cissé assoit enfin sa légitimité en tant que pionnier du cinéma sur notre continent. On écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Yélène, signé Souleymane Cissé, véritable classique de la filmographie de l'auteur, mais également eh bien, de l'histoire du cinéma africain. Yélène retrace un parcours initiatique. C'est un moment charnière que met en scène le cinéaste, le moment entre l'enfance et l'âge adulte. Notre héros, un jeune homme, va recevoir le savoir destiné à lui assurer la maîtrise des forces surnaturelles qui l'entourent. Cette connaissance que les Bambara eh bien, se transmettent depuis toujours de génération en génération. Sauf que le père supporte très mal de voir son fils devenir son égal et pour échapper à sa folie meurtrière, la mère éloigne le jeune Nyano Koro et au fil du voyage, eh bien, celui-ci va finir tout de même par acquérir peu à peu les éléments de la connaissance ultime. D'ailleurs, un de ses nouveaux pouvoirs le mènera à devoir affronter inévitablement son père. En tout cas, Yélène est un film intemporel. D'ailleurs, il fut le premier film africain primé en compétition internationale à Cannes. Et à y voir de plus près, dans ce film, Souleymane Cissé se pose la question « qu'est-ce que la lumière finalement ?» Et il répond « raconter les grands mythes de l'humanité avec une lumière nouvelle ». D'ailleurs, le soleil final de Yélène se lève sur un désert arpenté par une femme et un enfant. Après le traumatisme, le cataclysme, le monde recommence dans le calme et la lumière. La lumière permet ce miracle de la nouvelle naissance du monde. D'ailleurs, cette lumière revenue procure une nouvelle clarté, une nouvelle connaissance. Alors plutôt que miracle, trop marqué peut-être par la culture judéo-chrétienne, il faudrait dire plutôt magie, qui correspond plus à l'esprit bambara et la culture africaine. En tout cas, dans la mise en scène de Yélène Cissé, respecte la tradition antique, l'épouse et l'africanise. Il faut savoir que Yélène est devenue en quelque temps une tragédie, un classique, une tension qui ne faiblit pas malgré le temps qui passe, un film incontournable, véritable classique à voir d'urgence. Et après avoir parlé de Yélène, de Souleymane Cissé, tout de suite, eh bien, nous parlons de cette rétrospective consacrée à la regrettée Dalila Nadir, véritable autodidacte. La défunte a réalisé de nombreux documentaires sur plusieurs sujets, notamment sociétaux marocains. En 87, d'ailleurs, elle signe son premier film documentaire avec la grâce de Dieu. Depuis, tout n'a été que succès pour Dalila Nadir. Et en ce mois, jusqu'au 14 décembre, les instituts français lui consacrent une rétrospective qui est portée à bout de bras par sa fille, comédienne Lilia Nadir, et qui de mieux pour nous en parler que sa propre fille, qui revient eh bien, sur la filmographie de sa défunte mère, dont la mémoire est toujours aussi vivace.
Oui, c'est beaucoup d'émotions, mais c'est aussi beaucoup de joie et de reconnaissance que ça se fasse avec autant d'accompagnement et que ça se passe aussi bien. J'avais vraiment envie, pour les 5 ans de sa disparition, de lui rendre hommage à travers une rétrospective de 7 de ses films documentaires. Et puis de commencer cette tournée au Maroc, ça a beaucoup de sens de par son lien à son pays d'origine, qui était vraiment viscéral pour elle. Donc je suis très, très heureuse de cette tournée.
Et c'est vrai que le Maroc voilà, est omniprésent ou presque dans, dans sa filmographie. Il y a toujours eu ce lien et d'être proche des gens, voilà, de revenir un peu, de vivre avec eux, de les montrer sur sous leur vrai visage. Et en tant que fille, mais également voilà, en tant que femme, avec le recul que tu peux avoir aujourd'hui sur la filmographie de ta défunte maman, comment tu peux expliquer le choix de ces thématiques? Qu'est-ce qu'elle te disait à propos de ça et pourquoi cette veine sociale qui lui tenait tant à cœur?
Elle était de tous les combats qui aident à capturer une parole pour rendre justice. Et donc, elle était une porte-parole du peuple marocain. Elle avait cette envie de montrer ce qu'on ne voit pas facilement, de donner parole à ceux à qui on ne donne pas la parole, c'est ce qu'elle disait. Mais elle le faisait avec beaucoup de justesse et de délicatesse, ce qui donnait beaucoup de force à ses films. Et puis elle était aussi forte à la fois dans l'écoute et dans la présence. Donc son travail se basait beaucoup sur le respect de l'autre. Elle a consacré sa vie à défendre le droit des femmes, notamment au Maroc. Elle a dressé beaucoup de portraits de femmes fortes à qui justement on n'entend pas souvent parler d'elle dans ses films. Et donc, parmi les films que j'ai choisis pour les documentaires pour cette rétrospective, j'ai choisi des films qui sont tous liés à des sujets de thématiques de sujets marocains, justement pour souligner sa grande présence au Maroc avec ses films.
Et Lilia, justement, nous parlons donc de cet hommage, de cette rétrospective organisée par les instituts français jusqu'au 14 décembre. Est-ce que tu peux nous parler des choix des films, des documentaires que tu as sélectionnés?
Alors, j'ai choisi 7 de ces documentaires qui sont tous liés à des sujets de société marocaine. Elle a consacré sa vie à défendre le droit des femmes au Maroc, mais aussi de donner la parole dans ses films, tout l'espace de la parole aux oubliés de cette terre, comme elle les appelait, les petites gens, les prostituées, les pauvres. Mais avant tout, ces films sont d'une incroyable humanité et ils montrent toute la richesse de ces gens qui n'ont rien. Et donc, j'ai choisi des films qui représentent bien, je pense, tout ce qu'elle a voulu aborder, tout ce qu'elle a voulu toucher dans son cinéma pour défendre la parole des opprimés du peuple marocain.
Et toi, Lilia, en tant que sa fille, donc, je pense que tu as dû assister à la préparation de tournage, à toutes ces recherches, cette ambiance, ce bouillonnement intellectuel, artistique, et cette soif de vérité qui anime beaucoup les réalisateurs de documentaires en règle générale. Et qu'est-ce que les souvenirs qui te restent de ça et qui t'animent, je pense, encore aujourd'hui?
J'ai un lien tout particulier avec son dernier film, Jean Genet, notre père des fleurs, qui est un film qui porte sur une réflexion sur l'au-delà. Et c'est un film que j'ai dû terminer avec un collectif d'amis cinéastes et la monteuse du film, parce qu'elle est partie avant la fin. Et ça a été très... J'ai terminé ce film avec beaucoup d'émotion, mais avec beaucoup de fascination pour son travail et le regard qu'elle portait à la fin de sa vie sur le lien qu'il peut y avoir entre les morts et les vivants. Donc c'est un film qui m'accompagne encore aujourd'hui dans le cheminement du deuil. Et ça a été particulièrement fort de terminer son dernier documentaire, qui est un très beau film. J'avais aussi très peur qu'il ne lui ressemble pas, parce que évidemment j'ai passé toute mon enfance à discuter avec elle de ses films, de ses projets, et celui-ci faisait vraiment intimement partie de notre quotidien. Donc j'avais cette grande responsabilité que ce soit son film, et j'ai été très, très heureuse de voir la version finale du montage, parce que je trouve que c'est un film qui résonne énormément dans les cœurs et qui est exactement, c'est le film de ma mère.
Et c'est vrai que je pense qu'il ne pouvait que lui ressembler à travers toi également. Et tu parlais du regard de ta maman, et avec le recul, comment tu résumerais le regard de ta maman en tant que femme cinéaste, pas juste en tant que cinéaste, mais en tant que femme, parce que voilà, c'est ça aussi qui faisait qu'elle était la cinéaste qu'elle était également. Donc voilà, j'aimerais bien que tu résumes.
En fait, elle avait été tout ce qu'elle traite dans ses films. Femme, pauvre, orpheline. Et puis, elle a grandi dans un milieu social où elle vivait autour de ces femmes, justement. Et quand elle rentrait en France, elle ne comprenait pas cette image déformée qu'avaient les gens de ces femmes avec qui elle a grandi. Donc, elle avait à cœur de dévoiler cette intimité. Elle avait d'ailleurs cette proximité avec les gens. Les gens l'aimaient autant et l'admiraient autant pour sa personne que pour son travail. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a réussi à capturer une intimité qu'on n'a pas l'habitude de voir, surtout quand on est une femme au Maroc. On n'a pas forcément, on ne parle pas avec facilité forcément de tous les sujets qu'elle aborde dans ses films. Et elle réussissait à mettre les gens dans une confiance et dans cette envie de partage, de libérer la parole pour accéder à un monde meilleur.
Et c'est tout à ton honneur, Lilia, de perpétrer la mémoire de ta maman en tant que femme, mais également en tant que cinéaste à travers cette très belle rétrospective. Et toi, Lilia, est-ce que tout ça ne t'a pas donné également envie de témoigner, de dévoiler une certaine vérité à travers la caméra?
Alors, le seul projet que j'aurais envie de réaliser, ce serait un film biographique sur justement la vie de ma mère. Parce que comme elle a passé sa vie à dévoiler celle des autres, j'ai envie de lui faire ce cadeau et de montrer justement Dalila et Nadr sous un regard plus intime. Donc ce serait le projet que j'ai et que j'espère un jour réaliser, mais ce serait le seul. Sinon, moi, je suis comédienne, donc je suis devant la caméra. Mais c'est une façon de participer pour moi que de continuer.
Cet héritage, oui. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Lilia. C'était vraiment un plaisir que de te recevoir. Donc, la rétrospective consacrée d'Alila Ennadré, donc jusqu'au 14 décembre à travers le Maroc au sein des instituts français. Et toi, comme porte-parole, merci beaucoup, Lilia.
Merci à vous.
Et on arrive bientôt à la fin de l'Afrique en culture. Et après avoir parlé cinéma, tout de suite, eh bien, nous parlons encore une fois cinéma, puisque du 14 au 17 novembre 2020, 2024 se tient la 29e semaine du cinéma africain. En effet, l'association Bernay Burkina Faso propose sa 29e édition consacrée au cinéma africain et ce jusqu'au 17 novembre au cinéma Multirex de Bernay au programme, donc une sélection de films récents avec des sujets riches et variés. L'association Bernay Burkina Faso, je le rappelle, existe depuis 89. Alors dès le départ, elle s'était fixé deux objectifs, amener la culture africaine à Bernay et participer à des projets portés au Burkina par des habitants. Du coup, l'association a contribué notamment à la construction d'un puits, puis d'une école à Sorgho Yarsé entre 99 et 2009. Et cette année également, le but est de reconstruire une école au Burkina Faso. Comment allier cinéma, 7e art, mais également et action sociale. Côté programmation, on retrouve La mère de tous les mensonges de Esma El Moudir, un documentaire consacré à Césaria Évora, sans oublier Les filles d'Olfa, une programmation donc très riche et condensée. Si vous avez l'occasion d'être de passage, eh bien ça se passe jusqu'au 17 novembre du côté de Bernay. On arrive à la fin de l'Afrique en culture. Merci d'avoir été avec nous, c'était un plaisir que de vous accompagner. Je vous rappelle que l'Afrique en culture, c'est à retrouver toujours en avant-première sur Média Podcast. Tout de suite, Fils avec YOLO. Très bonne écoute à tous et à très bientôt, toujours sur Média.
I'm chilling with the vibe, money can you go, go. I want a mini London, money can you postcode. We only got one life, I believe in YOLO. And I be tried for life, sure you see the logo. California, to understand how we dey move, you go need encyclopedia. My party life is a movie. Oh, mo Judy, I no fit talk 'em. Pepe dem be at a didin. Oga didi, oya pick one, oya pick two, oya check up. We dey deliver, then we lock up. LB mention in the drop top. I'll mark in follow instruction. Give me liquor, give me ginger. There's a fuse don't turn into singer. So you spend million on a finger. Carry my tag, go Jerry Springer. I'm chillin' with the vibe, money can you go, go. Oh, oh. I want a mini London, money can you postcode. Oh, oh. We only got one life, oh, nah. I believe in YOLO. YOLO. And I be tried for life, oh, yeah. Sure you see the logo. Carry my tag, go Jerry Springer.